Et après avoir analysé la semaine dernière la pression internationale que subit Israël ces dernières semaines, eh bien, on se concentre sur l'impasse dans laquelle se trouve l'État hébreu et les manières dont il pourrait s'en sortir. C'est donc la chronique de Daniel Haber ce matin. Il est comme d'habitude au micro de Blaise van der Linden.
Daniel Haber, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour chers auditeurs.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors Daniel, lors de nos dernières conversations, nous évoquions le fait qu'actuellement Israël est sous pression d'un peu tous les côtés. On a l'impression que l'État hébreu se trouve dans une impasse. Alors décrivez-nous un peu cette impasse dont nous allons parler.
Alors la pression, c'est la pression et l'impasse, c'est l'impasse. L'impasse, c'est quel que soit le choix que fera Israël dans la poursuite de ses opérations à Gaza, parce qu'on va se concentrer sur ce théâtre d'opération, l'issue est mauvaise. C'est ça l'impasse, c'est-à-dire que c'est un dilemme où on est perdant-perdant. Alors le choix d'Israël peut être le suivant. D'abord, il peut résister aux pressions en disant... On est les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour notre pays. Et donc, on va poursuivre les opérations avec évidemment les hurlements de tous ceux qui disent vous ne mettez pas les otages en priorité, vous menez une guerre sans fin, vous n'avez pas d'objectif. Ça, c'est pour l'intérieur. Et à l'extérieur, évidemment, la campagne dont vous parliez, la campagne de pression va augmenter, génocide, famine, etc. Les Européens surtout sont à la manœuvre. Vous savez que la semaine prochaine, la France et l'Arabie Saoudite vont mener une discussion sur la Palestine à New York dans le cadre des Nations Unies. Bon, il y a cette menace de la France de reconnaître l'État de Palestine si justement Israël poursuit ses opérations. Bon. On sent que la France est un peu en voie de recul sur ce sujet et on en reparlera beaucoup la semaine prochaine. Mais en tout cas, on voit bien que la poursuite des opérations est longue et difficile et elle va continuer à susciter cette pression épouvantable. Mais si Israël cède, alors évidemment, il sera immédiatement félicité par tout le monde, à commencer par le Hamas, ce qui évidemment montre que c'est pas la bonne solution. Mais une fois la joie passée d'avoir récupéré les otages, parce que évidemment la fin de l'opération serait la récupération des otages, on fera le bilan et on verra très vite que le bilan est épouvantable. C'est-à-dire d'abord l'opération où on va rendre les otages, où on va faire apparaître qu'il y a un tiers de vivants et deux tiers de morts. C'est ce qui va être effrayant. Et vous vous souvenez, les mises en scène de la phase 1 au mois de janvier, c'était effrayant pour le moral de tout le monde. Et là, ça sera encore pire. Deuxièmement, on va échanger souvent des cadavres contre des centaines de terroristes qui, eux, sont des vrais criminels qui n'ont qu'une idée, c'est recommencer. Et puis surtout, le vrai problème, c'est que... Israël doit se retirer de Gaza, ce qui veut dire que le Hamas reste. Et là, on va s'apercevoir que le Hamas, très affaibli, il reste quand même opérationnel. Il y a beaucoup de miliciens qui ont été recrutés, c'est très facile de les recruter. Il y a beaucoup de tunnels qui restent opérationnels, des centaines de kilomètres encore. Il reste des roquettes et des missiles qui ont été mis soigneusement de côté, donc il y a une capacité de nuisance qui est énorme. Et puis surtout, dès qu'Israël sera retiré, notamment de la frontière avec l'Égypte, cette passoire qui a permis au Hamas d'être cette puissance de nuisance qu'on a vu à l'œuvre, va recommencer à laisser passer des armes. Alors l'ingéniosité des contrebandiers est sans limite et la complicité des autorités égyptiennes aussi. Donc on va avoir une reconstitution, on risque d'avoir une reconstitution rapide. Et puis il faut imaginer les hurlements de victoire du Hamas à Gaza, les mitraillettes qui vont tirer au ciel. Nous avons vaincu la plus grande armée du Moyen-Orient et ce signal d'une défaite israélienne résonnera non seulement dans tout le Moyen-Orient mais dans tout le monde entier et donc rendra très difficile en fait toute solution de paix dans l'avenir. Donc voyez, c'est perdant-perdant.
Justement, alors Daniel, y a-t-il une voie de sortie qui ne serait pas une impasse?
Il y en a une qui est en train d'étudier, qui étudie depuis quelques mois déjà et qui n'avance pas, donc elle est aléatoire, c'est de faire intervenir des forces extérieures à Gaza et qui sont essentiellement des Arabes. Il n'y a qu'eux qui peuvent intervenir, en tête desquels les Saoudiens, évidemment, les Émiratis, peut-être des Égyptiens, des Jordaniens, des Marocains, en tout cas des Arabes qui sont intéressés par une solution et qui sont prêts à prendre une partie de la responsabilité. Donc, il serait chargé de quoi? Premièrement, de désarmer le Hamas, hein, d'abord de faire sortir les leaders qui restent encore, les sortir de Gaza pour qu'ils aillent opérer ailleurs, et surtout de désarmer tous ces jeunes miliciens à qui on vient de remettre des mitraillettes pour qu'ils ne s'en servent pas. Le plus important ensuite, c'est la suite. C'est-à-dire, il faut organiser la sécurité du territoire. Et on voit déjà, à l'occasion de cette aide humanitaire privée qui est en train de se mettre en place, que non seulement le Hamas, mais aussi des bandes qui sont à la fois des pillards, des gangsters et des terroristes, difficile de faire la nuance, qui sont hostiles au Hamas et qui sont prêts à prendre sa place, ne demandent pas mieux que de remplir le vide. Donc il faut immédiatement une sécurité qui d'une part sécurise la distribution alimentaire et deuxièmement empêche le non-retour ou du Hamas ou d'autres entreprises terroristes. Et puis il faut gérer dans le quotidien. Là, c'est peut-être le plus simple. Il faut un cocktail d'anciens fonctionnaires de l'autorité palestinienne qui avaient été virés par le Hamas en 2007, qui n'ont pas été tués, tous n'ont pas été tués, donc certains pourraient reprendre de la fonction. On peut envoyer des fonctionnaires de l'autorité palestinienne de Ramallah, on peut avoir des représentants de tous ces clans, des grandes familles de Gaza qui, localement, ont une influence et peuvent gérer, et puis peut-être envoyer des experts. Bon, on peut avoir un cocktail comme ça. En fait, tout ça se dirige vers une idée que je lance ici, mais qui n'est pas la mienne, hein, qui court dans l'air, d'une sorte de mandat. Il y avait le mandat britannique, hein, pour conduire à l'indépendance et un État juif et un État arabe. Et il y aurait un mandat, peut-être de la Ligue arabe, parce que Israël n'accepterait pas un mandat de l'ONU, parce que Israël se méfie trop de l'ONU, qui est complice aujourd'hui du Hamas quasiment. Donc un mandat de la Ligue arabe pour essayer de créer une situation stable à Gaza. Et au-delà, ce mandat pourrait s'étendre à la Cisjordanie, une sorte de mandat sur la Palestine, qui permettrait de trouver une solution à la question palestinienne, qui n'est pas immédiatement une solution à deux États, parce qu'elle n'est pas crédible aujourd'hui. Et voilà. Donc, c'est un peu l'idée qui revient et qui évidemment dépend beaucoup de l'Arabie saoudite.
Ce mandat, cette solution arabe dont vous parlez, est-ce qu'elle a des chances de voir le jour?
Comme je vous le disais, ça dépend de l'Arabie saoudite et ça dépend donc de Trump aussi, parce que Trump a fait de l'Arabie saoudite son principal partenaire dans la région, presque plus que Israël. Enfin, Israël, c'est son allié, hein, mais le partenaire d'avenir, c'est l'Arabie saoudite. Il y a eu un renouvellement du pacte ancien entre Roosevelt et le grand-père de Mohammed Ben Salman. Donc, c'est sur l'Arabie saoudite qu'on va compter, mais l'Arabie saoudite, elle a des problèmes. Elle a des problèmes parce que elle n'est pas prête à prendre toutes ses responsabilités. D'abord parce que elle a une opinion publique qui est évidemment hostile à tout ce qui peut aider Israël. Or, objectivement, prendre ce mandat en charge, c'est dégager Israël de sa responsabilité, c'est aider Israël indirectement à trouver une solution. Bon, peut-être qu'il pourrait le faire dans le cadre justement d'une extension des accords d'Abraham. On irait vers à la fois une reconnaissance d'Israël par l'Arabie saoudite et un certain nombre de garanties. Et c'est ça qui est le véritable obstacle, c'est que l'Arabie saoudite qui ferait ça se lancerait un peu dans le vide, avec beaucoup de risques. Par exemple, si les Arabes occupent Gaza, il y aura peut-être des attentats. justement par ce qui restera de milices terroristes dans Gaza qui s'en prendront aux forces arabes. Et donc, c'est difficile pour la monarchie, les monarchies du Golfe d'avoir des morts à Gaza. C'est compliqué à expliquer à l'opinion publique. Et donc, ils ont besoin de solides garanties qui peuvent venir que des Américains. Et donc là, on est dans l'alliance entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, dont on a vu au mois de mai qu'elle s'était plutôt concentrée sur des deals d'affaires, des investissements, mais pas sur des solutions géopolitiques. Donc voilà, on est dans cette attente d'une solution qui soit géopolitique, qui implique quand même que Trump s'engage et aide l'Arabie saoudite à s'engager. Et là, c'est vraiment la grande question actuelle. Je pense qu'elle se discute de façon extrêmement secrète, donc personne n'a d'écho. Et la question, c'est combien de temps encore ça va prendre. Le fait que la France, la semaine prochaine, fasse quelque chose à côté de l'Arabie saoudite, c'est pas neutre. Ça veut dire que la France a compris que c'est la bonne voie et elle veut pas laisser peut-être être les États-Unis être seuls à la manœuvre. La France et l'Europe veulent toujours garder, si possible, un rôle à jouer au Moyen-Orient. Et donc l'Arabie saoudite, on voit bien, est le pays clé pour trouver cette solution. Et donc ce sera pour nous l'occasion à conversation d'éclaircir un petit peu cette voie, qui est la voie de sortie, la seule qu'on puisse voir à terme.
Exactement, et ça nous donnera des sujets à traiter tout au long de cette fin de saison pour conversation. Merci beaucoup Daniel Habert d'avoir été avec nous en ce lundi matin. On se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.